Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux et celles qui se joindront à nous plus tard. Vous pourrez écouter cet épisode au moment qu'il vous plaira bien, puisque ce sera un épisode quand même lourd en émotions, je crois. Nous allons avoir trois personnes qui s'affronteront. Nous reprenons les fameux combats. Vous avez peut-être vu plus tôt le combat des meilleurs sorts, mais cette fois-ci, ce sera vraiment les gens autour de la table qui vont aller s'affronter dans l'arène. Et je parle de Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Félix-Antoine Huard. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, Marika, ça va bien?
Ça va bien toi-même?
Oui, j'ai pris le serment ce soir d'être gentil. Et dans la forme, me reprocher d'être hargneux et arrogant. Ce soir, je vais défendre ma classe avec passion, bonheur et câlinour. T'as pas l'air de me croire?
Et finalement, nous avons une nouvelle personne. Donc, on va lui souhaiter la bienvenue. C'est peut-être pour ça que Félix-Antoine va calmer ses ardeurs ce soir. Question de bien accueillir cette personne. Et je parle de Caroline Simard. Bonsoir à toi.
Bonsoir.
Bienvenue sur la chaîne. Ça fait plaisir. Donc, ces trois individus vont bientôt enfiler leur costume de combat puisqu'ils vont défendre ce soir, selon eux, la meilleure classe de Donjons et Dragons 5e édition. On a quand même limité ça au niveau 1 à 8 là, parce qu'après, ça peut quand même déraper en fonction de la classe. Donc, ils ont chacun et chacune une classe à défendre. Ils auront 2 rounds pour la défendre, un round qui sera basé sur la mécanique et un round qui sera basé sur le roleplay ou la façon narrative qui est intéressante de jouer avec cette classe. Mais avant cela, puisque ici on a envie de faire découvrir des nouveaux gens de la communauté, on a invité Caroline et j'aimerais, Caroline, que tu nous parles un petit peu de qui tu es pour la communauté et de ce que tu fais et de ce qui t'attend dans les semaines qui viennent, tes prochains projets pour que les gens puissent allez te suivre, puis voir ce qui est intéressant par rapport à ta chaîne et compagnie.
Bien, merci. En fait, en ce moment, ceux qui me connaissent sous le nom de Carozen sur Twitch. Je joue à des jeux vidéo. Puis c'est ça, c'est vraiment une chaîne de jeux vidéo. Je suis présente sur différentes chaînes comme joueuse de jeux de rôle sur table. Mais je démarre ce mois-ci ma propre chaîne YouTube de jeux de rôle sur table qui s'appelle Histoire d'un soir et qui se dédie à faire des aventures d'une séance.
Excellent. On a hâte de découvrir ça.
Puis, dans ce qui s'en vient, sinon, un bel événement organisé par plusieurs streamers, dont Queen Boo. C'est un événement qui va être organisé du 3 au 4 juin à Trois-Rivières pour Opération Enfant-Soleil. Surveillez les médias sociaux dans les prochaines semaines. Probablement cette semaine, il y a plus de détails qui vont sortir. Un bel événement de jeu de rôle, plein de parties sur table.
Parfait. On va mettre ça dans la description de la vidéo. Puis dès que tu as l'événement, tu nous l'enverras. Puis on va spreader ça dans le monde autour de nous. Oui, Pépé.
Je peux me dire, mon Dieu Seigneur. OK. Là, pas oui, super. Ben, en fait, je voulais seulement mentionner aussi également parce que je prouve que ça vaut la peine d'être nommé que Caro, tu as aussi un itch.io sur lequel tu as partagé les systèmes de jeu que tu as fait.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Hein? Des systèmes
c'est vrai,
de jeu.
J'ai fait un jeu.
Oui. Des systèmes de jeux que tu as fait qui servent justement à essayer des jeux plus génériques qui permettent d'être adaptés à la sauce que vous le désirez, qui est disponible sur le itch.io de Caroline. Donc, je voulais le mentionner. Et voilà.
Merci, Pépé.
Un plaisir.
On pourra l'ajouter également dans la description avec plaisir et vous irez regarder tout ça. Donc, avant de commencer, je vous rappelle également, et pour Caroline, ce sera une première, qu'il y aura une question poison à la fin de l'épisode. Et après celle-ci, les affrontements seront terminés. Il y aura probablement quelques personnes blessées, évidemment, tout ça de façon très virtuelle, peut-être un peu émotionnelle également, on verra. Mais ce sera à vous, les gens à la maison, de choisir qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de cet affrontement. Et on vous invite, en fait, à nous dire en commentaire qui, selon vous, a défendu sa classe de la façon la plus glorieuse. Et peut-être même vous, quelle est votre classe, selon vous, quelle est la meilleure classe de Donjons et Dragons 5e édition? Parce que, évidemment, on ne ratissera pas large. On aura seulement 3 classes présentées ce soir, donc parmi les autres ou même parmi celles qui seront présentées. Pourquoi, selon vous, c'est la meilleure? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes?
Oui.
Oui.
Je vais vous inviter pour le round 1 qui portera sur la mécanique, à lancer un D20 pour savoir l'ordre de passage, le plus haut score sera le premier ou la première à commencer. Caroline, combien as-tu?
Non. 14.
14, c'est bien. Félix-Antoine?
9.
Pépé?
Félix-Antoine? Pépé! J'ai eu 19 cette fois-ci.
19. Ouais. Donc, nous aurons Pépé, Caroline et Félix. Vous avez 3 minutes pour cette round. Les autres, vous n'avez pas le droit d'interrompre les autres adversaires, même si ça peut être très tentant. Et à 3 minutes, ma cloche sonnera et ce sera la fin. Tout le monde a bien compris les consignes? Excellent.
Absolument.
Pépé, c'est oui. À toi.
Merci. Ben déjà, je veux quand même prendre dans mon temps de 3 minutes, faire salutations à mes adversaires. Puis de dire que je vais faire ça de manière la plus polie possible parce que de mon cas, je vous avouerai que je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui est très mécanique dans la vie, surtout en Donjons & Dragons, mais tout de même, je peux mentionner que la classe que j'ai choisie pour l'affrontement ce soir, il s'agit en fait du prêtre, du clerc, le cléric, le gars qui, quand j'étais jeune, à la deuxième édition, je pensais qu'il était vraiment juste habillé comme en genre de toche brune, alors que finalement, tu voyais des images d'un clerc avec une grosse armure et des grosses armes dans les mains. Parce qu'au final, c'est un peu ça la qualité de ce personnage, de cette classe, c'est qu'elle est, oui, un lanceur de sorts complet, mais qui permet en fait d'avoir les bénéfices de nombreuses autres classes. Alors que, dans le fond, déjà en débutant, le clerc bénéficie de quelques avantages par rapport aux autres classes et des autres lanceurs de sorts. Comme par exemple, on parle entre autres des compétences qui permettent d'avoir les armures et les boucliers que d'autres lanceurs de sorts n'ont pas. Certains domaines qui permettent même d'améliorer les armures et jusqu'à avoir, dans le fond, les armures lourdes et les armes martiales. Il y a le principal avantage aussi d'avoir une classe avec un CA élevé que le prêtre peut justement avoir grâce à ses différents avantages qui permettent d'avoir en plus de 8 points de vie de base, ce qui donne vraiment la meilleure capacité de survie au combat parmi les lanceurs de sorts, on va dire 100% lanceurs de sorts. Et en rajoutant à ça, bien sûr, les sorts supplémentaires des différents domaines qui sont généralement au nombre de 10 et qui permettent de mémoriser beaucoup de choses pour un certain nombre de domaines. Ça permet d'utiliser même des sorts qui sont disponibles pour d'autres classes, par exemple, boule de feu. Si jamais on prend le light domain, dans le fond, du prêtre en question, il y a bien sûr le channel divinity qui offre la possibilité de faire un turn undead, ainsi que des sorts d'un domaine précis. Il y a l'augmentation des dégâts aux armes de melee qui arrivent au niveau 8 et niveau 14, et aussi, bien sûr, l'augmentation des dégâts de cantrip qui est possible également à ces mêmes niveaux-là. Si l'on combine en avec des sorts comme Booming Blade, Green Flame Blade, via justement certains domaines, ça fait que les dégâts moyens des attaques de mêlée sont vraiment en fait plutôt bonnes. Ce que les personnages donnent a alors une efficacité au combat sans utiliser vraiment d'emplacement de sorts, ce qui est selon moi très avantageux. Et oui, bien sûr, le magicien a accès à des sorts que le clerc n'a pas accès, le barde a des compétences et des sorts que le prêtre n'a pas également. Le druide peut se transformer en forme sauvage et avoir des invocations supplémentaires et tout ça. Et je trouve qu'il est difficile de comparer tout ça de manière significative, mais parce que c'est vraiment très contextuel, la puissance d'un personnage, on s'entend, mais c'est tout de même, selon moi, un bon choix. Il y a aussi vraiment quelques domaines qui permettent en fait d'avoir une certaine variété, comme par exemple le Twilight Cleric, qui permet d'avoir en fait d'annuler des charmes de peur et des effets de peur justement sur des groupes complets. C'est vraiment un personnage qui est un combattant en fait complètement polyvalent. Ça veut dire que le prêtre est capable de se battre presque exclusivement à distance tout en gardant son groupe en vie. Ce qui fait aussi, et tout en étant également un redoutable classe de mêlée de première ligne, capable de botter des fesses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et comme pour citer, je vais terminer en citant... Je peux-tu juste citer quelque chose qui n'a pas rapport avec mon truc? Enfin, je trouve ça quand même drôle, puis j'ai pris le temps de le traduire.
Moi, ça me dérange pas. Vas-y. Ça m'intéresse.
Pour citer Joe Cat, qui est dans le fond une chaîne YouTube vraiment, vraiment populaire dans les jeux de rôle, qui a fait une vidéo de Crap Guide to D&D, il y a, pour le citer en propos du prêtre, il dit « Sérieusement, avec la polyvalence et la force indépendante que l'on peut obtenir d'un clerc, on pourrait constituer un groupe entier de prêtres purs, les appeler, dans le fond, la Team A, et aller les faire défoncer la porte de Tiamat pour lui réclamer son argent de son déjeuner. Et elle se contenterait de construire ses propres toilettes pour s'administrer elle-même un wedgie afin de ne pas subir le genre d'intimidation que les prêtres lui feraient au final. »
Oh, c'est niché quand même, cette citation.
Effectivement. Donc, c'était ma répartie mécanique des prêtres.
Wow. Belle recherche.
Bravo.
Merci.
Oui. Belle utilisation du 3 minutes. Quand même, tu as dit beaucoup d'informations en 3 minutes.
Merci. Puis j'ai pris le temps aussi au début de remercier les gens puis de féliciter mes adversaires.
Ouais.
Et voilà.
Ouais, c'est fait.
Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Hein?
Non, je sais. Probablement que Félix ne fera pas, mais Caroline va le faire parce qu'on s'aime bien.
Dans le fond, on va juste craquer Félix jusqu'à ce que ça soit son tour qu'il soit plus fin.
Ouais, c'est ça, on va vraiment exprès, on le pique, puis là, à son tour, il va vraiment être pas fin. Même si au début, il était bien intentionné. Parfait, j'ai fini, je suis vraiment fini.
Ça, c'est ce qu'il dit. OK, donc 3 minutes maintenant pour Caroline, toujours dans la mécanique. C'est à toi.
Évidemment, je vais faire comme Pierre-Philippe. Je vais faire ma licheuse d'adversaire pour montrer que je suis de bonne foi, puis que dans le fond, on est tous des amis pour les 10 prochaines minutes. Puis dans le fond, moi, je vais vous parler du paladin. Le premier nom de classe qui m'est venu en tête définitivement quand on parle de classe qui est très forte à Donjons & Dragons, c'est le paladin. Je ne connaîtrais pas une personne, je conseillerais par défaut le paladin. Le paladin est bon dans... Il excelle dans la sainte trinité du combat. C'est un bon tank, un gardien pour ses camarades. Il est bon pour faire des dégâts, des blessures aux ennemis. Et il est un bon personnage de soutien. Il peut guérir et protéger ses alliés avec ses auras. On parlait de guerrier. Là, je vais peut-être un peu toucher les arguments de Pépé, mais notez quand même que le paladin est encore meilleur dans ces aspects-là. Il a quand même beaucoup de points de vie. Il a autant de points de vie qu'un guerrier, qu'un fighter. Il peut porter les armures lourdes, des boucliers, et tous les paladins peuvent porter des armures lourdes, et ainsi que les armes martiales. Il y a aussi un style de combat qu'il peut choisir quand même parmi 7 choix. Là. C'est moins que le fighter, mais quand même, ça donne un avantage non négligeable en combat. Puis, il y a une attaque supplémentaire au niveau 5. En plus de ça, c'est un lanceur de sorts, on va dire un demi-caster, mais n'empêche qu'il y a des choix qui lui sont exclusifs. Et bien sûr, comment oublier le smite? Qui est spell, attaque, mais hein, la satisfaction d'un spite est aussi incontestée. Personnage de soutien, ben, tous les paladins ont un channel divinity. Certains vont être souvent de l'ordre du soutien. Ça peut être donner des points de vie à leurs alliés, comme le paladin de la couronne. Il y en a, je pense, qui peuvent faire des peurs. Les effets sont vraiment variés, mais c'est souvent les effets de soutien ou de crowd control, de contrôle des foules. Ils vont avoir des auras de protection au niveau 7 pour protéger leurs amis contre toutes sortes de choses, même si on parle de fin de jeu, là, ils peuvent avoir d'autres types d'auras très puissantes qui sont exclusives aux paladins. Et en plus de ça, pour guérir leurs amis, ils ont les mains de Léon, aussi appelées Lay on Hand. Donc, l'imposition des mains qui sert à guérir de façon très efficace. Si on compare à un prêtre qui va essayer de guérir avec des healing words de quelques points, à 5 points par niveau, là, ça peut devenir assez intense quand les mains et les besoins de mains se font sentir. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le paladin au niveau des règles.
Excellent. J'adore que tu attaques le cleric d'emblée. On aime ça comme ça.
Si je peux me permettre un commentaire, Caroline et moi, on a fait ensemble au complet Tome of Annihilation, au complet, complet, complet. On a joué ensemble comme joueurs, côte à côte. Et j'aimerais seulement mentionner que dans toute la partie, au complet, il y a un personnage qui est mort. Il était de quelle classe, Caroline, le personnage mort?
T'es une mauvaise foi, Pépé.
Il était paladin. C'était un paladin. Et voilà.
Ah, OK, non, c'est vrai. Ben, on a aussi un bard qui est mort.
Oui, il est revenu.
Un paladin est mort. Mais dis-moi, je ne me rappelais pas.
C'était mon paladin. Parfait.
OK, c'était ton bonhomme.
C'était mon bonhomme.
Ah ouais, OK.
Je pense que ça dépend beaucoup de la personne qui joue la classe, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire.
Ah, je pense que c'est ça.
On est maintenant rendu à Félix. Donc, tu auras également 3 minutes. Caroline a bien fait ça. Elle n'a même pas tout pris son temps. Tu avais bien fait tes devoirs. Maintenant, Félix, c'est à toi pour le dernier round, la dernière partie du round pour la mécanique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir, mais un brin de consternation que je vais moi aussi saluer mes adversaires. Bien à vous, félicitations, nous nous sommes tous rendus, c'est cordial et de bonne foi. Ceci étant, ce soir, je suis ici pour dévoiler une grande tristesse. En fait, c'est que la classe que j'ai choisie n'est rien sans vous. Puisque c'est ma classe préférée, celle que je juge qui est la meilleure, parce qu'elle est là pour améliorer la vie des autres joueurs. Et c'est bien évidemment le barde, le ou la barde. parce qu'elle peut améliorer la vie des autres joueurs sur deux plans, très mécanique, mais roleplay aussi. Elle peut concrètement donner des habiletés supplémentaires avec son inspiration bardique aux autres joueurs autour de la table ou aux alliés qui seraient fournis par le maître ou la maître du jeu au cas où il n'y a pas de Custom Cat Solo. Mais aussi sur le plan de l'histoire et de l'ambiance, puisque le barde, en fait, c'est, à mon avis, sur le plan mécanique, quelque chose d'intéressant. Il vous offre deux possibilités. Soit vous utilisez évidemment sa grande liste de sorts très puissantes pour venir à vos fins, ou bien l'une de ses habilités. Et ça dépend de la collaboration du DM et des autres joueurs, mais ce qui est très cool d'un barde, c'est que justement, là où vous avez des points de vie, des sorts et des interventions divines, le barde a ses habilités de persuasion, de mensonge, qui permet de décrocheter et de désengager chacune des scènes créées par le ou la maître du jeu. Fait que si les gens apprécient autour de la table de pouvoir justement rebondir, ben, le barde est votre meilleure trampoline. Alors si vous ne choisissez pas le barde, peut-être que c'est qu'il vous manque quelque chose à vous dans votre plaisir de jouer, puisqu'il est à votre hauteur. Alors, à vous de voir à quel point vous vous aimez, vous, en tant que joueur. Offrez-vous le barde. À toi, Marika.
C'était expéditif.
Ah, ben, tu vois, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire quand on sait que c'est la meilleure classe. Pas besoin de prendre 3 minutes et demie et citer une phrase immense.
Voilà. Félix-Antoine Huard, tout le monde. Bon. Premier round terminé. Est-ce que vous êtes prêts à vous attaquer au deuxième?
Sûr.
Tout à fait.
Oui.
Je vais vous demander de lancer un autre des 20 pour rebrasser les cartes. Qui sait?
J'ai vraiment l'impression de lancer sur l'initiative.
C'est un peu ça.
Oui.
Ben, ouais. C'est ça, hein?
Ouais.
13.
3.
14.
Si on ne va pas rebrasser les cartes, ce sera le même ordre. Donc, Pépé en premier, ensuite Caroline et Félix-Antoine. Cette fois-ci, nos trois participants devront défendre leur classe au niveau de la narrative, au niveau du roleplay. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est la meilleure classe? Ils auront encore 3 minutes. Donc, Pépé, c'est à toi.
Oui, alors déjà, je trouve que le prêtre étant sur l'aspect roleplay et narratif est, selon moi, la classe parfaite autant pour des joueurs aguerris que, mais aussi beaucoup, beaucoup pour des personnes qui commencent. Parce que c'est très facile de tomber dans ce qu'on va appeler les tropes, c'est-à-dire vraiment l'image, pas nécessairement cliché, mais thématiquement fort du prêtre, puisque chacun de ses domaines ou même chacun de ses, on va dire, de ses spécialisations peut être associé à soit un dieu, soit un idéal ou soit même justement une vision qui fait en sorte que ça peut venir t'aider fortement à influencer ton roleplay d'un point de vue narratif et aussi ainsi donner une saveur à quelque chose que tu as peut-être un peu de difficulté à comprendre ou à manipuler au début si c'est dans tes premières parties de Donjons & Dragons. Il y a vraiment de diversité qui se voit. Toutes les vertus, tous les concepts, tous les idéaux, tous les alignements peuvent être adaptés à une des sous-classes du prêtre. Et même les sorts supplémentaires, même si ça demeure tout ça dans un point de vue beaucoup plus mécanique, les sorts supplémentaires permettent d'identifier aussi ce que vous pouvez jouer en termes de roleplay, puisque certains sortilèges qui vont être donnés selon les sous-domaines de prêtre peuvent venir influencer le type de comportement que vous voulez avoir dans le groupe. Et de ce fait, je trouve qu'un clerc peut être un simple marin qui vénère un dieu de la mer, alors que, ou un artisan perturbé qui, dont la divinité représente le même amour que la sculpture, que le personnage peut avoir pour la sculpture. Au final, c'est que le prêtre a cette facilité-là de venir accrocher un aspect narratif dans le jeu et de venir aider le joueur à concevoir un peu le comportement qu'il peut avoir par rapport à la spécialité de sa classe. Et dans le fond, c'est... Même si on l'associe beaucoup à son dieu, ce qui est, je trouve qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être 100% d'accord avec votre dieu, vous n'avez même pas besoin de connaître votre dieu ou votre foi à 100%, c'est votre foi qui vous guide, ce n'est pas nécessairement vos connaissances ou votre bon sens. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un modèle pour la représentation religieuse que vous êtes ou pour qui que ce soit. Votre personnage est une personne, les personnes sont imparfaites, il n'y a rien de mal à justement être imparfait dans ce contexte-là. Donc, je pense que ça peut être vraiment très désagréable de tomber dans une certaine forme de zélote pour certaines classes, dont justement le prêtre pourrait faire tomber si jamais on ne fait pas attention. Mais tout de même, justement, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il y a une belle facilité à pouvoir interpréter ce qu'on considère être un domaine et à quel point celui-ci peut prendre de l'ampleur selon le type de personnalité que vous voulez offrir à votre personnage. C'est vraiment une diversité incroyable. Un couple complet peut être composé de prêtres et ils peuvent être tous très différents, 100%, et ils peuvent tous accomplir tous les rôles dans un groupe. Et voilà. Merci, bien Félix. Joué. Merci, Félix. Je les vois applaudir en silence. Je suis comme content. C'est rare, je le vois. Lancer des fleurs. Parfait. Et voilà,
j'ai un goût de voter pour toi.
Ben, écoute, vas-y.
Bien
en
joué.
Commentaire.
Maintenant, Caroline, c'est ton tour.
Oui.
3 minutes.
Oui, désolé, Pépé, je vais avoir l'air d'attaquer tes arguments. En fait, on dirait qu'on a pensé aux mêmes argumentations, aux mêmes angles d'attaque pour réfléchir à nos personnages. On s'entend que le prêtre et le paladin ne sont pas si loin sémantiquement, on pourrait dire. À la maison, Pépé et moi, on ne s'est pas consulté ou je ne copie pas ses arguments. En fait, je pense vraiment que pour jouer pour quelqu'un qui n'est pas habitué à incarner un rôle, le paladin peut être très, très facile de prise en main, disons, justement à cause des serments qu'ils font. Donc, 4 grandes valeurs à défendre. Puis malgré tout, alors que certains pourraient trouver que c'est quand même limitatif, autant ça peut encadrer les plus nouveaux joueurs, puis autant il y a quand même plusieurs sous-classes offrant une belle variété. Si on pense au paladin de la vengeance, celui qui brise les serments ou de la conquête même. Donc, on a quand même une relative belle variété. Puis pour les joueurs plus expérimentés, ça peut amener à justement essayer de pousser plus loin les concepts. C'est sûr aussi que, moi, ce que je voulais vous parler là, par rapport au paladin, que je trouve qui est bien intéressant, puis là, je vais tomber dans la grande théorie, là, la psychologie, puis ça. Mais il y a une théorie qui est bien intéressante, c'est une théorie des motivations qui s'appelle la théorie de l'autoefficacité, qui est bien connue. En fait, selon laquelle, ce qui est motivant pour une personne, peu importe le contexte, c'est d'être capable d'influencer son environnement. Je trouve que le paladin est vraiment l'incarnation un peu de ce principe-là, selon lequel, quand on est en combat, hors combat, parce que n'oublions pas que le paladin, un peu comme le barde, il n'excellera pas autant que le barde en situation sociale, mais il est quand même basé sur le charisme, entre autres. Fait que même hors combat, il va être utile. Généralement, en combat, il va être littéralement au centre de l'action. Ce qui fait de lui un peu, on va parler vraiment de stéréotypes, mais les gens qui jouent les paladins vont souvent se trouver à être les leaders du groupe même. Ils sont comme le héros qui est mis de l'avant parce qu'il est un peu bon dans tout. Ce qui peut être intéressant, ce qui peut être motivant. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement rechercher à être grandiose à travers son personnage, mais pour ceux qui savent ce qu'ils recherchent, ils sont assurés de trouver ça. Ensuite, les paladins ont un sort qui leur permet d'avoir une monture unique. Juste ça, tu sais, hein, en termes en termes de roleplay, en termes de fluff, y a-t-il quelque chose de plus épique que d'être un paladin, ton épée magique, glorieuse sur ta monture magique qui est unique? Et puis, en plus, autre fluff intéressant sur les paladins, qu'est-ce que les paladins peuvent manger pendant une conversion de paladins? On parlait de groupe de clérics, mais un groupe de paladins... peuvent manger du tartare de poulet, ce qui est impossible à tout autre groupe d'aventuriers, car les paladins sont immunisés aux maladies. Donc, le plat préféré des paladins. Je vous ai parlé du smite tout à l'heure. Wow. Je pense que ça s'applique aux règles, mais ça s'applique.
Ça, c'est Mathieu Lachance, le sti. Je sais que c'est son chum qui a dit ça.
C'est un running gag, le tartare de poulet, mais n'empêche qu'on a toujours trouvé intéressant le concept que les paladins étaient immunisés aux maladies. Puis je veux vous ramener encore le concept du smite qui, roleplayment parlant, demeure intéressant sous tous ses angles. Donc, j'ai rien d'autre à dire sur le paladin. J'ai quand même peut-être profité des quelques secondes qui me restent pour parler. Pépé, je vais peut-être commencer à être un peu plus piquante, là, mais j'ai déjà joué Bard, j'ai déjà joué Claire, j'ai adoré mes personnages. Cela dit, j'ai toujours trouvé que quelque chose manquait, justement. Puis je pense que de jouer dans l'ombre des autres personnages en étant le healer du groupe, en étant le buffer du groupe, c'est ce qui fait que faut vraiment se rattraper, puis il faut vraiment avoir un concept extrêmement intéressant. Puis je pense que ça s'adresse peut-être à un groupe plus niché de joueurs par rapport à d'autres classes. Voilà.
Excellent. Bien joué. On a quand même une adversaire coriace, là.
Ben oui.
Donc...
de poulet cru.
Ben oui, c'est exceptionnel.
Ouais, je pense pas que personne va pouvoir topper ça. On va laisser le 3 minutes. Félix, tu peux toujours m'impressionner.
Non, attends une minute, je vais partir mon timer moi aussi. Là. Tantôt, tu m'as dit que j'avais... Que moi, c'était du temps. OK, parfait.
Ah oui, t'avais même pas utilisé la moitié, quasiment.
Des fois, hein. C'est tellement efficace. voilà.
À toi.
OK. Bon, alors... Pourquoi sur le plan du roleplay, à mon avis, le barde est la meilleure classe? En effet, on peut jouer dans l'ombre des autres personnages, mais là, après ça reste à savoir qu'est-ce que nous, on apprécie faire comme joueur. personnellement, je trouve que ce que le bard permet de faire, c'est de faire triper ses amis. Puis c'est pas d'ici une pointe comme quoi les amis qui trippent, justement, c'est pas bien, parce que je pense que tous les autres joueurs qui entourent un joueur qui joue un bard, si ce que le bard aime faire, c'est pouvoir de permettre que les scènes qui se déroulent autour de lui soient différentes grâce à sa magie, son implication ou le contrôle, justement, du combat. Je pense que c'est ce qui en fait la meilleure classe. Ceci étant, puisqu'on parle exclusivement de roleplay dans cette section-ci, ben justement, moi, je trouve que le bard, c'est la saveur que l'on donne aux campagnes de roleplay. Parce que mécaniquement parlant, les campagnes qui sont plus tournées vers les interactions sociales, si on joue quelque chose de très porte, monstre, donjon, c'est sûr qu'un bard va avoir moins d'opportunités de briller, mais je pense que dans quelque chose d'un peu plus élaboré, c'est les épices à votre mets, parce qu'ils vous permettent de justement rajouter des couleurs tellement surprises, tellement différentes, parce qu'ils ont aussi la capacité avec Secret Magique d'aller eux aussi chercher une monture unique, là, dis-je en passant, je suis un voleur de sorts. Blague à part, justement, c'est ça. Tout à coup, ils peuvent faire apparaître une espèce de grand cheval puis faire grimper le paladin sur ce cheval-là pour courir à toute vitesse et foncer vers les ennemis dans un couloir. Peuvent rendre des gens invisibles. Peuvent aussi, sur le plan du roleplay, chanter des chansons, incanter un poème. Puis ça vient contrer la magie des autres lanceurs de sorts, où ça confère justement à chaque round, avec leur action bonus, la possibilité aux autres joueurs de briller sur le plan du roleplay. Là, j'en parle beaucoup de façon méta, mais disons de façon pratico-pratique, des styles de bard qui sortent un peu du classique caricature plate à jouer d'un bard qui est toujours sa crouse et qui va essayer de crouser le dragon. Les grands créateurs de sagas, des religions et des mondes plus nordiques peuvent jouer d'excellents bards tandis qu'ils racontent ce qui se passe autour d'eux. Pour me donner la mention, il y avait Marisha Ray dans un one-shot justement de Critical Role qui avait fait, si ma mémoire est bonne, un bard qui justement enregistre des choses sur des cassettes et les fait jouer avec un grand gramophone pour lancer des insultes aux ennemis. Fait qu'il vous offre tout ce monde de créativité. Cependant, je suis d'accord avec une chose. Je vais le concéder dans mon 3 minutes. C'est pas la classe qui est la plus facile à jouer. Mais moi, je trouve que ce qui en fait parfois, des fois, justement, la meilleure classe, c'est que les classes qui sont plus accessibles, c'est plus facile de tomber dans des sentiers assez simplistes qui ne permettent pas d'exploiter autant sur le plan du roleplay que de la mécanique, la puissance d'une classe. Donc, disons que c'est comme une piste diamant, un bard. Faut quand même savoir ce qu'on fait pour pouvoir avoir du plaisir à dévaler la pente sur ces meilleurs skis qui vous permettent de justement avancer à toute vitesse. À l'intérieur de mon 3 minutes, mais c'est ce qui fait de moi, c'est ce qui fait du bard, pardon, ma classe préférée et la meilleure classe de D&D.
Moi aussi, ma classe préférée, c'est Félix Antoine.
Non, merci. Je savais, j'avais pas dû m'en farger.
Non, tu t'en fais content. Moi, c'est là-dessus que je reste.
Exact. Je tombe dans les marches, je m'enlève et me gifle.
Mais ça rebondit bien sur une de mes questions avant la question poison. En fait, je voulais juste vous demander, Félix, tu y as un peu répondu. Vous avez choisi cette classe-là comme étant la meilleure classe selon vous, mais est-ce que c'est aussi votre classe préférée? J'étais juste curieuse de savoir.
Non.
Non? OK. Caroline, c'est quoi ta classe préférée?
Mais moi, je suis tiraillée parce qu'il y a vraiment beaucoup de classes que j'aime. Fait que... Puis je pense qu'à chaque fois, j'en redécouvre, là... C'est la beauté des nouvelles sous-classes qui apparaissent. J'aime beaucoup le Warlock, le Wizard, là, ce que c'est pour les termes en anglais. Là. Warlock, Wizard, le Rogue. Mais c'est toutes des classes qui peuvent briller à leur façon. Qu'on parle de, justement, mais même le Bard ou Paladin, je les aime toutes. Mais il y en a que j'aime moins, mais je ne les nommerai pas.
C'est correct. Il faut qu'il y en ait qu'on aime moins.
Et cléric,
qu'il y en ait qu'on aime
j'ai plus. De la difficulté, ouais. Je clairais que j'ai de la difficulté à y trouver mon compte. On se réconciliera.
Est-ce que c'est ta classe préférée, cléric, ou c'est juste celle que tu considères comme étant la meilleure?
C'est pas ma classe préférée. C'est elle que je considère, selon moi, la meilleure. C'est difficile pour moi de dire c'est laquelle est ma classe préférée. Je peux dire c'est laquelle la classe que j'aime le moins, mais c'est pas ma classe préférée parce que ma classe préférée, en fait, c'est drôle, mais c'est le paladin. Moi, c'est la classe que je préfère. C'est la classe que je préfère, puis je suis triste que mon paladin soit mort dans la game Caro. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'est vraiment... C'est, en fait, c'est autant d'un point de vue, parce que justement, je trouve que le paladin... puis là, je lance des fleurs sur son choix, en fait. Là, c'est que le paladin a vraiment une belle option martiale, mais en plus, il y a justement ce petit côté roleplay de pouvoir surfer sur une thématique précise, ce qui est très cool. Fait que j'ai joué une fois. En fait, le paladin, c'est drôle, je l'ai joué juste une fois, mais j'ai tellement aimé ça, j'ai adoré ça, le jouer dans son style. Puis, juste pour faire un commentaire, tu sais, Félix, tantôt, tu disais que des fois, le bard va moins refléter ou moins être, on va dire, facile à jouer ou du moins être moins marquant dans un contexte d'une game porte-monstre trésor.
Ouais.
Mais justement, Tomb of Annihilation, c'est quand même beaucoup porte-monstre trésor. Puis on avait un bard, puis man, c'était comme de loin le personnage le plus incroyable.
Ah ben oui.
Grâce à lui, on comprenait qu'est-ce qui était le plus grand trésor dans ces donjons-là.
C'était l'amitié.
Ah ouais.
Ça vous donne le ton. En fait, il était inspiré du personnage de Galavant. Je ne sais pas si vous avez vu la série, ça fait quand même quelques années.
C'est une série comédie musicale.
Vous le googlerez.
Okay. Ouais. Wow. Fait que c'est non, son personnage, le personnage du Bard est incroyable. Fait que pour moi, le Bard est très bon dans toutes les circonstances.
Ben, c'est ça, dans toutes les circonstances, mais justement, c'est pas la plus forte des classes. En tout cas, bref, je ne vais pas tomber dans la partie, mais c'est ça.
Je voulais juste lancer des fleurs à vos deux choix. C'est pour ça.
Juste rapidement, moi, c'est Druid, ma classe, comme que j'aimerais plus le jouer, mais je pense que Bard, c'est la plus forte.
OK, excellent, parfait. Et tout ça, ce n'était pas la question poison.
Moi, j'avais une question, Marcage, peux-tu? Vraiment rapide. Oui. Vraiment rapide. Pour vos personnages, pour les choix de classe que vous avez faits, c'est quoi, selon vous, le niveau le plus fun à jouer?
C'est low. Je vais dire low level, le premier tiers, puis dash, deuxième tiers maximum, là, pour la simple et bonne raison que plus haut que ça, je n'ai juste pas de plaisir, peu importe la classe. Mais surtout que le prêtre, je trouve que rendu à un certain point, on tombe trop pour acquis, qui va comme nous ressusciter, si y a de quoi, des choses comme ça. Alors qu'au final, il y a peut-être le goût de garder ses spells pour autre chose. Fait que, mais en même temps, j'aurais été n'importe quelle classe, j'aurais dit entre 5 et 10 niveaux point barre, mais ouais, je serais sûr.
Je regarde pas beaucoup l'évolution par niveau. On dirait que je suis un peu déphasé par rapport à ça, mais je pense que peu importe la classe, c'est le niveau 5 qui fait sourire les joueurs autour d'une table là, parce que c'est la boule de feu, parce que c'est la deuxième attaque, parce que c'est le proficiency. Mais sinon, je pourrais pas dire.
Je suis pas Félix.
À niveau 5 aussi, parce qu'au niveau 5, tu as Font of Inspiration avec un bard. Fait que tu regagnes tes inspirations bardiques quand tu fais un short rest. Fait que au bout d'une heure, tu peux faire plein de blagues, craquer tes amis, justement invoquer le pouvoir de l'amitié ou ta magie licorne ou raconter des sagas nordiques. Whatever, tu décides. On a un chat, on est en vie par un chat. Voilà.
Ben oui, toi.
Exact. Ça, c'est mon familier. Puis là, il est vraiment dans la caméra. Là,
ben oui, on dirait qu'il se frotte la face dessus.
Ouais, et en fait, il se lave la patte là, vraiment sur l'écran. Hey, voilà.
Bienvenue. T'as juste un druide, en fait, qui a quelque chose à dire.
Ah, oui,
tout à fait. Ben merci, Félix, pour cette question. Maintenant, ce sera. Non, pas besoin de t'excuser. nous en arrivons à une question qui est possiblement moins. moins agréable pour
vous. Il est vraiment comme blanc.
Attendez, je vais l'enlever là, parce que là, il abuse de mon
esprit. Il est vraiment genre comme je m'en calisse, je me mets devant la caméra et je me lave la patte comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Il n'y a pas conscience.
Ouais.
I'm the star now.
Je change mon idée, ma glace préférée, c'est ce chat-là.
Exact, on va tout pour le chat.
Il est parti. Il s'appelle Severus en plus. Allons-y. Donc, question poison. Vous allez quand même avoir besoin d'un petit peu de temps, je crois, pour y penser.
Okay.
Je vais vous demander de penser à une mise en situation dans laquelle votre paladin, votre cleric ou votre barde se retrouverait confronté à l'une des deux autres classes qui a été présentée aujourd'hui et qui le détruirait, soit sur le plan mécanique ou sur le plan narratif. Donc, ce que je veux, c'est que vous inventiez une petite scène dans laquelle votre classe, votre personnage de cette classe, aurait un avantage immense sur l'une des deux autres classes qui a été mentionnée ce soir. Pendant que vous y pensez, moi, la classe que j'aurais défendue si j'avais eu à combattre dans cette arène, ça aurait été évidemment le roublard.
Ouais, c'est sûr.
Ma classe préférée est la classe que je considère comme la meilleur au niveau de la mécanique et de la narrative. Donc voilà, ça me fait très plaisir de la jouer présentement niveau 13. Et c'est là qu'on voit justement toute l'étendue des possibilités. Maintenant, est-ce que quelqu'un est prêt à nous dire sa mise en situation? Oui, vous pouvez lancer les dés, effectivement.
Ah, mais oui.
Je suis prête, mais j'ai peur. Je vais acheter du temps. Oups, j'ai un.
Ah, bon.
J'ai acheté beaucoup de temps.
Pépé?
J'ai 16.
Oh, j'ai 7.
Bon, c'est... Oh, c'est...
J'ai été vraiment battu.
Pépé, Félix, Caroline.
Fallait-tu que je fasse les deux?
Non, tu en choisis une des deux.
OK, ça va être vraiment super simple, là. Mais je pense que dans un contexte où on est quand même haut niveau, si on est comme dans les deux derniers tiers, là, je pense que si le prêtre a l'initiative sur le bard, il le décalisse.
Un combat, tu veux dire?
Ah, dans tout. Je pense qu'autant en combat qu'en spell, je pense que s'il y a le dessus, s'il commence l'initiative, je pense qu'il peut facilement le wrecker parce que le prêtre, en fait, il y a souvent les sorts qui vont être contre des sorts de charme, contre des sorts d'influence, contre des sorts de contrôle que le bard pourrait faire. Puis s'il commence, mais je pense que le bard n'aura juste pas le temps de faire un sort de ce type avant de se faire, on va dire, défaire dans l'espace-temps par un sortilège de prêtre de haut niveau, qu'un bard pourrait peut-être éventuellement faire un équivalent, mais que je pense que sur le long terme, même au côté point de vie, côté résistance, là, côté on va dire durabilité, je pense qu'il va juste le défaire en petits morceaux. C'est sûr que si tu me parles de d'un concours de chant ou genre d'un concours de tarte aux pommes, je pense que le bard va mieux s'en sortir. Là. Mais on s'entend. Puis aussi, même chose pour le côté du paladin et le prêtre, je pense que si on start ça puis qu'au final, on se met comme dans les mêmes niveaux, là, si le paladin débute le tour, je pense que c'est comme une game d'échecs. Là, c'est que la première personne qui commence, c'est lui qui gagne. Là, je pense que le paladin peut genre wrecker le prêtre facilement s'il l'a en premier tour, s'il l'a en premier round. Là.
D'accord. On a Félix-Antoine Cavalère plutôt sceptique. Et c'est à toi,
déçu,
Félix.
Blessé, surtout. C'était fait avec beaucoup de violence. Et ce serait justement ce que ferait un cléric contre un barde. Mais justement, c'est ça. Il tomberait dans le panneau et dans le piège. Parce que, souviens-toi, Pépé, le barde a accédé au premier niveau à la capacité de pouvoir faire Silvery Barbs.
Je sais,
son sort préféré. Par contre, je le concède. L'une des difficultés auxquelles le bard ferait face dans un combat contre un cléric, c'est justement la différence de point de vie, la capacité au combat au corps à corps. Mais je pense que si un bard est confronté à un paladin ou justement à un cléric, ou à n'importe quelle autre classe, le bard a la chance de s'en sortir en un ou deux tours. Après ça, en effet, il se fait briser en empêchant le combat.
Ben, c'est sûr.
C'est ça la force de la classe. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait capable de combattre plus facilement puis de mettre un terme rapidement au combat. Le bard, c'est un critical hit en termes de gamer, de gameplay. S'il fait un combat un contre un ou même contre en PVP, là, c'est sa capacité. Tu vas m'attaquer, tu vas essayer de faire des feux divins contre moi puis ton channel Divinity. Puis moi, si le but, c'est de se sauver d'une pièce ou peu importe, ben je peux t'effrayer. Puis je pars. Puis il n'y a pas de combat. Essaie de me rattraper. Je vais faire bonus action, je me téléporte. Tu peux te pogner un cheval, je m'en fais un. C'est sûr, je gagne. Tant que le but, c'est pas de se frapper d'en face. Je vous conseille.
Non, mais je suis absolument. Au final, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça que je pense que si, mettons, le bard a l'avantage de débuter, je pense qu'il y a tout à propos d'utiliser les sortilèges qui ont sa possession pour, en fait, avoir le premier mot, puis que le prêtre doive prendre son tour pour annuler les effets d'un sortilège plus passif qui fait en sorte que tu vas pas attaquer, tu vas être plus. Fait que, ouais.
Mais j'aurais plus de chance contre le paladin que contre le cléric.
Parce que le cléric, il est wisdom.
Il est basé en sagesse. Mm-hmm. Tandis que souvent, le paladin, il est bien beau, il parle bien fort, il est super propre, il tape, mais il n'y a pas de wisdom.
À un moment donné, il manque de points. Là.
Ouais, c'est ça, exact.
Mais en même temps, je dis le paladin, je pense qu'il fait comme un seul de ses coups avec, voyons comment ça s'appelle, tu l'as nommé tantôt, Caro.
Smite.
Un Devin Smite, puis je pense qu'il décalifoune un bard.
Décalifoune.
Ouais, j'essaie de moins sacrer un peu.
Caroline?
Ben, c'est sûr que c'est toujours une question de tu sais, si on parle de haut niveau, je pense que le bard puis le cléric réussissent à rattraper avec toutes sortes de sorts haut niveau, là, peuvent facilement... contrecarrer le paladin, là, mais effectivement, si on reste dans le cadre de niveau 1 à 8, le paladin il va probablement moi aussi chercher des mots qui ne sont pas des sacres.
Annihiler
ses opposants clériques et bardes. C'est ça. Puis, tu sais, on dirait, je trouve que c'est genre des archétypes de personnages un peu plus spellcaster, un peu plus combat, un peu plus utilitaire. Tu sais, c'est un peu comme le roche-papier-ciseau, tu sais, selon le niveau, selon l'initiative. Puis chacun va Je trouve que c'est quand même un bon point aussi que le barde, lui, justement, va éviter les combats. Je trouve que c'est vraiment la bonne façon de le présenter aussi, là, parce que on dirait que quand tu joues un barde, tu vas avoir un mindset plus créatif aussi. Proposer des alternatives, sortir de la boîte, proposer des choses, autre chose que le combat. Ce qui fait que ça pourrait rendre des aventures qui sont typiquement porte-monstre-trésor, peut-être même apporter un peu de variété dans ce type d'histoire-là. Là. Disons que j'ai plusieurs exemples en tête. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse pour ça aussi. T'sais, c'est toujours chaque classe a son moment de gloire, là, mais. C'est ça, c'est ma réponse. C'est plate, hein? J'aurais pas gagné de points ce tour-ci, mais c'est ce que je crois.
J'aurais tendance à dire que personne n'a vraiment gagné de points. Vous n'avez pas tant survécu pour la première fois, peut-être, à ma question poison. Vous n'êtes pas trop mouillé à cette question poison. C'est pas tant des mises en situation ce que vous avez fait. Vous avez jamais passé entrevue dans votre vie, vous autres. Une mise en situation.
Tu sais, en mêlée, le paladin va péter la gueule du barde. Puis socialement, je pense c'est hors combat, il va voler la vedette au prêtre. Je pense, honnêtement.
Fait qu'il va gagner, somme toute. Tous les tableaux.
Tu veux gagner, je veux un paladin.
Voilà, donc et c'est à vous justement, cher public, de choisir si c'est le paladin qui remporte ce combat, le cleric ou bien le barde. On vous invite donc à nous l'écrire en commentaire, que ce soit sur Patreon ou sur YouTube, à nous dire aussi, vous, quelle est selon vous la meilleure classe de D&D de 5e édition de niveau 1 à 8. Je vais prendre le temps de remercier Pépé d'avoir été là pour cet affrontement. Félix-Antoine également. On n'a même pas dit quel numéro. On est au 28e épisode quand même de discuter entre les dés. Wow. Et Caroline Simard, merci d'avoir été parmi nous.
Ça fait plaisir.
Tu as bien fait ça. Ouais. On va te réinviter à nouveau dans le...
Excellente, en fait. Ouais. Excellente préparation. Magnifique delivery. J'ai pas beaucoup de chance. Puis genre, je vais voter pour
en
toi.
Fait, maintenant que l'entrevue est faite, on peut le dire tout de même que genre, c'est pas juste Caroline Simard, c'est Docteur Caroline Simard. Ce qui fait en sorte que ça y donne une certaine puissance au niveau de la répartie.
Franchement.
Excellent. Donc, ça fait plaisir.
Merci.
Avec plaisir. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, on vous invite évidemment à appuyer sur le petit pouce pour nous encourager, la petite cloche pour savoir ce qui s'en vient, puisque des discutés entre les dés, il y en aura à chaque mois. D'ailleurs, j'ai déjà le sujet du mois de mai. Je pourrais en discuter avec mes collègues ici tout de suite après. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook pour voir tout ce qu'on y fait, un peu Instagram, on met quelques trucs parfois, surtout des petites photos qu'on fait avec nos collègues de d'autres chaînes et compagnies. Et si jamais vous avez un petit peu d'argent dans vos poches, eh bien, vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour nos exclusivités également et avoir nos vidéos d'avance. Mais d'ici là, je vous dis donc au revoir, à la prochaine, au mois prochain.
Bye!